Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, trois films à voir ou à revoir. Et le jeu vidéo qui est un phénomène mondial. Le premier jeu qui détrône Fortnite, 500 millions de joueurs sur la planète. Vous retrouverez nos trois mousquetaires, Bertrand Chamorroy pour son écran de veille, Charles Decamp et son journal des médias et les audiences avec une surprise, Eva Rock pour son zapping du lendemain. Et comme les trois mousquetaires, ils sont en fait quatre. Je n'oublie pas Hélène Manarino et son portrait inattendu. Notre infomédia, Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit. C'est la brillante conclusion du documentaire de France 5 ce soir dans la fameuse case Le Monde en Face. Nous recevrons son réalisateur Walid Berissoul et Florentin Collomb, le co-auteur. Il n'y a pas que les clashs et les buzz dans la guerre des chaînes d'infos. Lui ne fait pas de bruit, mais il réussit peu à peu à imposer sa marque. Le journaliste économique Pascal Perry présente chaque jour Periscope à 16h sur LCI. Il sera notre invité. On va lui demander s'il faut être austère pour parler d'austérité. Enfin, le comédien et réalisateur Maurice Barthélémy des Robin des Bois, mais pas pour parler d'un film ou d'une pièce. Il publie un livre dans lequel il se livre énormément, fort, comme un hypersensible, pour vous dire si ça va loin. Il l'a coécrit avec une psy. Et nous aussi, on ira loin jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, Charles, le sommaire du jour.
Le bras de fer se poursuit à l'équipe. France 2 va célébrer la musique, le bilan des ventes d'albums 2020 et des anges chassés de la Réunion.
Et on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la quatrième place. Déception pour Opération Renaissance, la nouvelle émission de Karine Le Marchand consacrée à l'obésité sur M6. 1 900 000 personnes seulement ont suivi son lancement, soit 8,4% du public et un très moyen 16% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est TF1 qui est en première position avec la suite de Sam saison 5 en hausse à 4 500 000 téléspectateurs. La part d'audience atteint 20,2% sur l'ensemble du public et un très joli 30% sur les femmes de moins de 50 ans. Deuxième, France 2 pointe à 2 400 000 téléspectateurs pour la suite de la série britannique The Bay saison 2, soit 10,3% du public. Et France 3 est troisième avec Secret d'Histoire à 2 100 000 téléspectateurs et 9,3% de part d'audience.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec une première dans l'histoire du journal L'Équipe.
Oui, ça fait 4 jours qu'il ne paraît pas. 4 jours d'affilée, ça n'était jamais arrivé. Pas de quotidien sportif donc encore aujourd'hui, que ce soit en ligne ou dans les kiosques.
Alors comment expliquer cette situation ?
Mais ce qui est en cause, c'est un plan de restructuration. Il prévoit la suppression de 40 à 50 emplois, soit près de 15% des effectifs. Un plan indispensable selon la direction, compte tenu du difficile contexte économique et de la baisse du nombre de compétitions sportives. Un plan en revanche incompréhensible pour les salariés. Les compétitions sportives devraient revenir cette année et l'an prochain. Le journal va donc avoir besoin de tout le monde, selon eux. Des salariés qui rejettent ce plan, ils semblent très mobilisés. 80% d'entre eux suivent le mouvement de grève, selon les syndicats. Le mouvement pourrait donc durer, la situation apparaît bloquée. La direction du journal refuserait de discuter du bien fondé de ce plan, selon le Figaro ce matin.
C'est le 12 février que France 2 va diffuser les prochaines victoires de la musique.
Et ce sont Stéphane Bern et Laurie Tillman qui seront aux commandes. Un duo inédit dont la directrice des divertissements de France Télévisions, Alexandra Redamiel, a vanté les mérites au micro de Louise Bernard.
Dans les duos, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est des personnalités différentes et ça permet finalement d'envoyer des messages aussi différents. C'est aussi vivant. On a besoin d'avoir une télé de l'interaction. On n'a pas besoin d'avoir une télé monotone et en tout cas qui répète toujours la même chose. Stéphane Bern est un ambassadeur de la culture, donc je crois qu'il a un rôle essentiel en ce moment en tant qu'animateur et en tant que passeur de messages. Et puis Laurie, c'est une valeur montante de France Télévisions qu'on a vu dernièrement sur la fête de la chanson française, mais aussi c'est elle qui fait la fête de la musique. Viens, je t'emmène sur France 3. Elle réussit à créer avec les artistes des moments uniques. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est très fiers d'offrir pour la première fois ce duo qui ne s'est pas encore rencontré devant la télévision.
Les victoires 2021 viendront clore une année très difficile pour l'industrie musicale, une année sans concert ou presque, et qui a des conséquences forcément sur la cérémonie. Les catégories révélation scène et meilleurs concerts sont supprimées, mais le patron des victoires, Romain Vivien, nous l'a assuré, le live aura plus que jamais sa place pendant la soirée.
Il y aura des séquences dédiées, spéciales, tout au long de l'émission, qui vont mettre à l'honneur le spectacle vivant et le live, réunir des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, dans des conditions de live, avec un grand orchestre, où on va aussi présenter les rendez-vous de l'année 2021 qui les concernent sur le live, comme il va pouvoir quand même un petit peu exister, en essayant un peu de se projeter et en espérant des bonnes nouvelles. C'est un message de soutien, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'espoir. C'est de dire que malgré tout ce qui se passe, et on l'a bien vu d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant besoin de musique.
Alors parmi les nouveautés de cette édition 2021, une victoire sera remise au titre le plus streamé, le plus écouté en streaming de l'année, tandis que la catégorie révélation scène sera remplacée par deux catégories, révélation masculine et féminine. Un grand concert pour présenter d'ailleurs tous les artistes nommés dans ces deux catégories sera diffusé le 26 janvier sur France 2 après Taratata.
Et c'est dans ce contexte que le Figaro révèle ce matin le classement des albums les plus vendus en France en 2020.
Oui, les plus vendus et les plus écoutés en streaming pour être précis, en tête de cette liste, l'album Versus de Vita et Slimane avec un peu plus de 400 000 unités. Le disque avait déjà cartonné en 2019 et cumule à ce jour près de 700 000 unités. Il faut dire que les ventes de l'album, qui se font surtout en physique et notamment dans les supermarchés, ont été significativement boostées par une réédition avec 10 inédits. Elle est parue en octobre dernier et elle inclut notamment le single « Ça ira ». Les rappeurs qui sont extrêmement écoutés en streaming figurent en très bonne place dans ce palmarès. Nino est deuxième avec près de 300 000 ventes pour MILS3 devant Maes à 275 000 ventes combinées. Le gros succès du rap, qui est un milieu très masculin, explique sans doute en partie la très faible représentation des femmes dans le classement. Seules 4 artistes féminines se hissent parmi les 30 meilleures ventes de 2020. Outre Vita, bien sûr, c'est la Belge Angèle qui s'en sort le mieux avec un peu plus de 200 000 unités pour son album Brawl, qui était paru en 2019 et qui cumule à ce jour plus de 700 000 exemplaires vendus.
Le focus programme du jour, c'est le documentaire La Cravate, diffusé ce soir sur Canal+, bande-annonce.
Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans.
Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle.
Je pense pas pareil, tu le sais bien.
Mais oui, je sais bien.
Dans La Cravate, les réalisateurs Étienne Chailloux et Mathias Théry dressent de manière originale le portrait d'un jeune militant du Front National en pleine campagne présidentielle en 2017. Il s'appelle Bastien, il a 20 ans et il commence à monter dans le parti, mais il n'est pas encore rodé à la communication politique, ce qui permet d'avoir un aperçu assez authentique de ce qu'il pense et de ce qu'il vit. Alors je vous parlais d'originalité parce que les deux réalisateurs ont eu une idée brillante. À côté du documentaire, disons classique, commenté par une voix off, ils ont fait relire le texte de cette voix off à Bastien et on le voit la commenter et la corriger. Dans ces séquences, le jeune homme va encore plus se confier et révéler des choses complètement inattendues.
Et pourquoi ça s'appelle La Cravate ?
Alors vous pensez bien qu'on a posé la question. Le co-réalisateur Mathias Théry l'a expliqué à Louise Bernard.
C'est l'accessoire du politicien, on va dire. En tout cas, c'est le symbole pour nous d'un parti qui essaye de se rendre le plus acceptable possible, le plus présentable possible peut-être. Donc c'est la dédiabolisation en gros. Et c'est aussi un objet auquel Bastien a un rapport particulier puisque dans le film, il passe de petit militant de campagne à jeune cadre du parti, donc il enfile la cravate et le costume.
La Cravate d'Étienne Chailloux et Mathias Théry, c'est ce soir à 22h55 sur Canal+.
Le tournage de la prochaine saison des Anges de la télé-réalité est annulé.
Oui, toute l'équipe de production et les candidats vont quitter la Réunion où le tournage devait débuter hier. C'est la société de production La Grosse Équipe qui a pris cette décision. Elle estime que les équipes et les candidats ne sont plus en sécurité sur place. L'adresse de la villa où devait avoir lieu le tournage a fuité, selon Le Parisien. Elle a été donnée sur les réseaux sociaux après une altercation qui a eu lieu ce week-end. Des candidats des Anges, je vous en parlais hier, sont accusés d'avoir agressé des clients de leur hôtel. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue dimanche, puis relâchés hier. Mais l'altercation a provoqué un mouvement de colère sur les réseaux sociaux et des appels à ce que le tournage soit annulé.
Ben donc c'est chose faite. Et on termine ce journal avec le joli démarrage de Lupin, la nouvelle série Netflix avec Omar Sy.
Et oui, la série s'est hissée en tête des programmes les plus vus sur Netflix en France, mais pas seulement. Elle s'est aussi hissée en tête des programmes de Netflix les plus vus dans le monde entier. Au-delà de ça, on a aussi un joli succès critique, puisque les 7 critiques américaines qui ont commenté cette série lui ont offert 100% d'opinions positives. Et on a un score de 86% d'opinions positives des spectateurs, d'après l'agrégateur de critiques américain Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes, les tomates pourries. Merci beaucoup Charles Decan, on vous retrouve demain. L'infomédia, c'est également à retrouver sur la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. À suivre dans notre info média du jour, un documentaire sur celui qui a provoqué le divorce historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, c'est le titre et c'est ce soir sur France 5. On en parle avec son réalisateur Walid Berissoul et son co-auteur Florentin Collomb.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Cela fait près d'un an que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne et près de deux semaines maintenant qu'il découvre ses nouvelles relations commerciales avec les 27. Tout cela grâce ou à cause d'un homme, c'est selon Boris Johnson, le fils d'une famille europhile devenu journaliste eurosceptique puis dirigeant conservateur, à la fois drôle, séducteur et incroyablement cynique. C'est son ascension et sa manière de faire de la politique que raconte un documentaire diffusé ce soir sur France 5, Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit. Bonjour Walid Berissoul.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui sera diffusé à 20h50 tout à l'heure. Bonjour Florentin Collomb.
Bonjour.
Vous en êtes le co-auteur et vous avez suivi le parcours de Boris Johnson ces dernières années puisque vous avez été le correspondant du Figaro à Londres. Walid Berissoul, je le disais, votre documentaire sur Boris Johnson a pour titre « L'illusionniste du Brexit ». Pourquoi avoir choisi ce mot « illusionniste »
Ça nous est apparu comme une évidence. Au départ, on était hésité entre battleur et joueur de poker et finalement, l'illusionniste, c'est ce qui correspondait mieux parce que Boris Johnson, c'est avant tout quelqu'un qui s'est raconté des histoires. C'était un journaliste à Bruxelles correspondant qui avait une relation à la vérité des faits un peu particulière. Et il continue en fait à raconter une histoire aux Britanniques, à une partie des Britanniques qui a voté pour lui et pour le Brexit, à une autre partie qui est plus sceptique et qui, elle, voulait rester dans l'Europe. Et c'est un illusionniste parce qu'en fait, on se demande dans ce film si le Brexit a finalement la même signification pour un pêcheur dans le sud de l'Angleterre, pour un ouvrier dans le nord-est qui votait avant travailliste et qui maintenant vote pour les conservateurs, ou pour un trader à Londres, pour ces trois catégories de population qu'on a été sondées, le Brexit n'a pas forcément le même sens. Et Boris Johnson, lui, il arrive très habilement à enjoliver tout ça, à enrober tout ça dans une espèce de récit qui viserait en gros à restaurer la grandeur de la Grande-Bretagne.
Alors votre film va sur le terrain, mais il raconte également l'ascension de Boris Johnson, promoteur, défenseur du Brexit, alors qu'il vient d'une famille d'Européens convaincus. Son père a fait partie des premiers fonctionnaires britanniques qui avaient été envoyés à Bruxelles en 73, l'année de l'adhésion du Royaume-Uni à la CE, l'ancêtre de l'Union européenne. Voici donc les Johnson dans la capitale belge. Le père et la sœur de Boris Johnson en personne vous en ont parlé.
Il y avait des gens très intéressants, un très bon esprit. Je vivais à Uccle, une de ces banlieues verdoyantes et très agréables de Bruxelles. Mes enfants allaient à l'école européenne. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris le français et être de bons Européens.
Et nous sommes devenus les bons petits Européens.
On a reçu une éducation complètement multiculturelle et polyglotte à Bruxelles.
Florentin Collomb, qu'est-ce qu'il apprend à Bruxelles au-delà d'apprendre le français, Boris Johnson ?
Mais c'est ça qui est fascinant avec Boris Johnson, l'homme qui finalement sera, dont on se souviendra comme celui qui a tiré le Royaume-Uni hors de l'Europe. Ouais. C'est un des hommes politiques britanniques de ces dernières années qui connaît le mieux l'Europe. Il y a grandi, il y a passé sa petite enfance, il discutait, il était dans ce milieu, comme dit sa sœur, polyglotte, multiculturel, multi-international, où il a commencé à comprendre les rouages de l'Union européenne. Puis, il est reparti en Grande-Bretagne à l'âge de 11 ans pour suivre un parcours beaucoup plus classique. Ouais. Mais il est revenu à Bruxelles comme pour l'un de ses premiers jobs, quand il est devenu journaliste. Il avait 20-25 ans, comme correspondant du Télégraphe. Et là encore, il a une connaissance très pointue de l'Union européenne, mais qu'il a utilisée à ouais. son propre profit et à ses propres fins pour mener une campagne.
Et même parfois, on va en parler, je vous interromps ouais. parce qu'il ne faut pas spoiler tout ouais. Toute cette interview, contre ses propres convictions. Oui. En 75, il a 11 ans, Boris Johnson retourne en Angleterre. Là, il va où vont les bons fils de famille. Eton, grand collège, puis Oxford, l'une des plus prestigieuses universités, non seulement britannique, mais mondiale. Mmh. C'est là-bas qu'il se forge son caractère.
C'est là-bas qu'il se forge en fait son personnage. C'est-à-dire que, comme l'explique notamment sa biographe, mais je ne veux pas effectivement trop divulgâcher le film, c'est là en tout cas qu'il se forge ce personnage, toujours un peu brouillon. Quand on le voit parler en public, il fait toujours mine d'avoir perdu un peu ses notes, de chercher ouais. un peu ses mots, alors qu'en fait, il sait exactement ce qu'il veut dire. Ça crée un effet, et surtout, il se crée ce personnage drôle,
ah oui,
fait rire.
Parce que vous revenez sur un épisode éloquent, c'est son élection à la tête d'un des clubs de l'université, l'Oxford Union, ouais. un moment qui dit beaucoup de sa personnalité, raconté par sa biographe. Elle s'appelle Sonia Purnell, elle est journaliste, et un journaliste du Financial Times qui s'appelle Simon Cooper.
Assez tôt, il s'est présenté à la présidence contre un gars beaucoup moins chic qui s'appelait Neil Sherlock. Et Boris a fait campagne en disant « Votez pour moi, je suis drôle et charismatique ». Sherlock a fait campagne en disant au contraire « Johnson est un gars de la haute et de droite ». Et Sherlock a gagné. Alors l'année suivante, Johnson n'a pas dit qu'il était conservateur, mais juste un gars sympa, et la seconde fois, il a gagné.
Et c'est ce qu'il a fait plus tard comme politicien. Il a dit à des gens différents ce qu'il voulait entendre. Il a dit aux anciens électeurs de gauche du Red Wall dans le nord industriel, « Faites-moi confiance, je vais améliorer votre vie. » Même si ça n'allait pas se révéler vrai, c'est ce qu'il leur a fait croire.
Alors, Boris Johnson remarque qu'il vaut mieux adapter son discours et ses convictions si on veut gagner une élection. Et cette tactique, il va l'appliquer également lors de la campagne pour la mairie de Londres, c'était en 2008. Il sera élu en se présentant, moi je me souviens de ça, Boris Le Rouge. Le Rouge, c'est-à-dire le communiste, alors qu'il il fait partie du camp conservateur. Il est un candidat de la droite, Florentin Collomb.
Ça résume très très bien aussi le personnage, parce qu'il avait été envoyé dans cette élection à la mairie de Londres par les partis conservateurs, comme au casse-pipe, parce qu'il pensait que la ville de gauche était imprenable. Boum, avec son charisme, son humour, il change complètement de discours, il devient pro-immigration, il est pour naturaliser les illégaux, il devient un candidat, une sorte de candidat bobo. Mmh. Et pendant ses 8 ans à la mairie de Londres, il est devenu l'homme politique préféré des Britanniques. Tout le monde avait envie de boire une bière avec lui, il est devenu extrêmement populaire et c'est là que ça...
Ça, je comprends très bien qu'il soit sympathique, mais vous le présentez comme un illusionniste, une élection c'est sérieux, comment ont-ils pu croire à ces boniments, tant est que ce soit des boniments, Walid Berissoul?
Bah parce qu'encore une fois, c'est très bien raconté.
Ils se sont dit, il est sincèrement de gauche.
Ils se sont dit, pour la ville de Londres, il va porter les préoccupations des Londoniens aussi. Il a aussi, par exemple, développé les vélos en libre service, qui aujourd'hui marchent toujours assez bien. Enfin, il y a beaucoup de cyclistes quand on va dans les rues de Londres. Il a quand même cette manière, en fait, de toujours emmener les gens.
Donc ce ne sont pas que des convictions, ce sont également des actes.
Ce sont également des actes.
Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait promis pendant l'élection?
Sur quoi? Sur la mairie de Londres? Bah, en partie, mais après...
De toute façon, le maire de Londres n'a pas beaucoup de pouvoir, voilà. C'est plus un job de représentation, et il était excellent là-dedans pour dire que Londres est la meilleure ville du monde. Et les Jeux Olympiques de 2012.
Ah oui, maintenant les Jeux Olympiques seront à Paris, et les vélos en libre-service sont également à Paris. On continue à parler de Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, avec Florentin Collomb et Walid Berissoul. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Florentin Collomb et de Walid Berissoul, on parle de Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, à voir ce soir, documentaire formidable sur France 5 à 20h50, suivi d'un débat, j'en reparlerai. Avant de mentir en politique, vous montrez que Boris Johnson mentait également dans les journaux, parce qu'avant de se lancer justement dans cette carrière politique, il était journaliste, et où, pas n'importe où, à Bruxelles. Il était le correspondant d'un quotidien conservateur, le Daily Telegraph, et c'est à cette époque qu'il a croisé et connu un journaliste français spécialisé Europe, Jean Quatremer.
Well, Jean, il ne faut jamais laisser les faits arrêter une bonne histoire. Boris a inventé un genre journalistique. Hein. C'était celui finalement qu'on appelle aujourd'hui la fake news, qui était à l'époque on appelait ça les euromythes.
Il ne détestait pas l'Union européenne, mais il a publié mensonge après mensonge sur l'Europe parce que ça plaisait énormément au Daily Telegraph et ça a incroyablement boosté sa notoriété.
Il avait inventé que l'Union européenne, par exemple, allait créer une brigade pour vérifier la bonne courbure des bananes. À l'origine, il y a effectivement un règlement européen qui prévoit des normes en matière de courbure de bananes. Par exemple, au Danemark, allez savoir pourquoi, ils aiment bien les bananes droites. Donc, c'est la catégorie numéro 1, catégorie numéro 2, un peu plus courbe. Puis il y en a qui aiment bien les bananes complètement rondes. Donc, c'est en norme. C'est juste pour faciliter le commerce. Et lui, il avait expliqué qu'on allait créer donc des brigades européennes pour aller vérifier sur place avec un maître si les bananes étaient bien courbes.
Alors il se marre, Jean Quatremer, mais on voit la une du journal avec la courbure des bananes. On va pas laisser les faits arrêter une bonne histoire, j'ai entendu un bon reportage, dit Boris Johnson. Ouais. Et il va le montrer à d'autres reprises, à tel point que ça va déteindre sur d'autres journées britanniques. Walid Berissoul, racontez ce qui se passe à ce moment-là dans la presse britannique.
En fait, ça fait un effet de boule de neige, c'est-à-dire que, et c'est sa biographe qui le raconte aussi assez bien, les autres collègues dans les salles de presse, ils regardent ce que fait le camarade, surtout ce blond là, un peu bizarre, un peu qu'on remarque en fait forcément. Du coup, on se demande un peu ce qu'il a écrit. Et donc, du coup, les rédacteurs en chef, quand ils voient l'histoire à Londres, ils disent mais comment ça se fait que toi, t'es pas la même histoire? Mais c'est pas vrai.
Ah oui, j'y
et
pense.
Puis finalement, voilà, bah oui, bah en fait, si, on va le
là
faire.
Là où c'est dingue, il avait dit qu'on allait détruire le bâtiment de l'Union européenne pour construire une tour de 2 km de haut.
C'est ça, ouais.
Et les patrons d'autres journaux disent mais pourquoi t'as pas fait ce sujet? Voilà, et donc, c'est pas vrai. Et ben bah, débrouille-toi, fais-moi ce sujet.
C'est ça.
Florentin Collomb, vous étiez à Londres pendant très longtemps, pendant 8 ans. Regardez votre film. On s'aperçoit que Boris Johnson a su utiliser les médias, a joué avec eux, s'en servir pour ses propres intérêts. Est-ce qu'on peut dire qu'il les a manipulés?
Ah bah oui, complètement, puisqu'il l'a fait de l'intérieur en tant que journaliste. Il a compris comment finalement intéresser les lecteurs, quitte à sacrifier la vérité, même la vérité parfois un peu ennuyeuse de l'Union européenne, et en faire un sujet d'entertainment, et quitte à créer et à souffler sur les braises d'un euroscepticisme.
Mais ça, c'était pour les journaux, les tabloïds, mais pas pour les journaux sérieux.
Mais c'était un journal sérieux. Le Daily Télégraphe, c'est l'équivalent du Figaro, hein, franchement.
Ah bon oui, c'est quand un journal... on voit ça, quand on voit la une, on pense que c'est The Sun.
Non, c'est un journal très sérieux.
Mais The Sun reprend après ce que fait le Télégraphe.
Et finalement, tous les journaux se sont mis au diapason, et les journaux européens, les journaux britanniques ont très mal traité l'Union européenne, et ça a déteint dans la classe politique pour qui ça devenait la vérité.
Puisque vous parlez de diapason, Johnson donne le là auquel il ne croit pas, et sa biographe vous révèle que lui-même, j'en arrive à l'élection au Brexit, ne s'attendait pas du tout à gagner, qu'il s'attendait pas du tout à remporter le référendum.
Bah oui, c'est ça, il pensait qu'il allait être un peu le perdant, qui a marqué un peu son qui a fait un coup et qui a posé un peu un gros jalon pour la suite de sa carrière, mais en fait ce qui se passe en juin 2016 quand le Brexit gagne à 52%, c'est que 52% des électeurs britanniques en fait quelque part disent maintenant Boris Johnson c'est à toi de venir au pouvoir et de nous emmener là où tu as dit que tu allais nous emmener, quoi. Et là en fait il a effectivement l'air d'être à lapin pris dans les phares d'une voiture, parce qu'en réalité il savait pas exactement passer
là
pas
il
seul,
le fait hein. Pas tout de suite, il va pas au pouvoir, c'est d'abord non, si je me souviens non. Bien c'est Theresa May
qui va d'abord, lui qui par un jeu de rivalité interne se retrouve un peu écarté, qui finit par être nommé ministre des Affaires étrangères, qui démissionne pour animer une fronde, et là encore il se met dans la minorité, et elle finit par démissionner parce qu'elle n'arrive pas à faire passer son plan du Brexit, et là c'est lui qui arrive au pouvoir 3 ans après le Brexit.
Voilà. Et on rigole parce qu'on voit les bêtises qu'il racontait quand il disait qu'il y avait l'argent de la sécurité sociale anglaise, britannique, servait à financer les corridas en Espagne. Mm. On est chez les dingues et j'arrive pas à croire que les journaux aient pu gober ce genre de choses.
Oui, mais c'était une campagne qui a reculé devant aucun moyen, hein, qui a été animée par des spécialistes de la manipulation des foules sur les réseaux sociaux, et la presse a été tout à fait complice de ça. Mais ce qu'on a voulu raconter aussi dans le film, c'est que tout ça n'était pas fait pour être mis en pratique. C'était une campagne de protestation, d'un référendum, mais personne n'a écrit de plan de qu'est-ce qu'on allait faire avec la victoire du Brexit et qu'est-ce que serait que la Grande-Bretagne post-Brexit. Et c'est ça le problème et la réalité à laquelle se retrouve confronté le pays aujourd'hui.
Et la réalité à laquelle se trouve confronté votre documentaire, et c'est pas la moindre de ses vertus, dans le film, vous ne vous contentez pas de raconter l'ascension de Boris Johnson avec des images d'archives, avec des entretiens. Vous êtes également allé sur le terrain, en Écosse, dans le nord de l'Angleterre, avec des ouvriers dans le sud, des pêcheurs à la rencontre de Britanniques qui donnent leur avis sur la politique de Boris Johnson, puisqu'il est désormais aux manettes, sur la gestion de la crise sanitaire, économique. Exemple, à Londres, dans la City, un gestionnaire de fonds d'investissement très favorable au Brexit.
Les Brexiteurs les plus radicaux brandissent cette menace pour faire du chantage avec l'Europe. Ils veulent obliger Bruxelles à laisser la City avoir accès au marché européen sans en subir les contraintes.
Si vous laissez le Royaume-Uni dehors, son gouvernement fera du dumping fiscal. Il utilisera cet outil pour attirer les entreprises sur son sol. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous voulez un voisin qui utilise sa fiscalité et sa monnaie pour fermer vos usines?
Florentin Collomb, vous avez suivi l'ascension de Boris Johnson. Est-ce que c'est un bon négociateur?
C'est un bon négociateur parce qu'il a des tactiques très, très, très puissantes. Il a mené les négociations, on l'a vu, sur l'accord de libre-échange jusqu'à la dernière limite, le 24 décembre, alors que c'est des négociations qui auraient dû se terminer des mois avant. Donc, il n'a peur de rien. Il a laissé planer la menace de sortir sans aucun accord, ce qui aurait été terrible pour l'économie britannique, encore plus que la situation actuelle. Donc, on peut dire qu'il utilise des tactiques de joueur de poker. Ouais. En même temps, c'est pas quelqu'un qui va dans le détail, dans le contenu des accords. Et si on parlait de la City à l'instant...
Tu en es où, justement, ouais.
Oui, la City ne fait pas partie de l'accord qui a été signé à la fin de 2020. Donc, c'est le premier secteur économique britannique. Hein, c'est 7% de leur PIB. Et c'est pour ça que ce trader de hedge fund nous dit que si la City ne réussit pas à avoir accès à son principal marché extérieur, hein, l'Union européenne, ils vont déréguler, ils vont faire une concurrence débridée aux portes de l'Union européenne. Et ça, c'est le projet d'origine des concepteurs du Brexit, devenir une sorte de plateforme offshore aux marges de l'Europe pour faire de la concurrence déloyale, ce qui a donné des cheveux blancs à Michel Barnier pendant ses 4 ans de négociations.
Je crois que les cheveux blancs, il les avait déjà, Michel Barnier. Ouais. L'image a fait la une des journaux aux Pays-Bas ces jours-ci, des policiers néerlandais en train de confisquer des sandwichs au jambon à des automobilistes britanniques, pardon de rire, qui arrivent sur le continent. C'est l'une des conséquences du Brexit. Pourquoi ? Parce qu'il est interdit aux particuliers d'importer de la viande et des produits laitiers britanniques dans l'Union européenne. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça, les gens, les vrais gens qui avaient voté pour le Brexit ?
En fait, il y a plein d'aspects, quand on défait comme ça 47 ans d'appartenance à l'Union européenne, évidemment, il y a plein d'aspects concrets du quotidien qui changent du jour au lendemain. Mmh. Alors là, on a parlé d'un accord qui ne met pas de taxes et de droits de douane, mais en fait, il y a quand même des contrôles douaniers aux frontières. Donc, il y a des exemples très concrets dans l'alimentation. Par exemple, nous, on a parlé des palettes. Ouais. Les palettes, c'est les supports sur lesquels tout est transporté. Et ben là aussi, ça va devoir passer 9 formulaires douaniers différents à Douvres ou à Calais. C'est un pays tiers maintenant.
Et autre conséquence, il y a une pleine page hier dans le Parisien. Mmh. Et il n'y a plus de nourriture fraîche dans les Marks & Spencer Food parce que les camions sont bloqués. Dernière question, en France évidemment. Ouais, Florentin Collomb, est-ce qu'il est populaire, Boris Johnson, aujourd'hui, ou est-ce qu'il a beaucoup perdu sa superbe ?
Il a beaucoup perdu. Les Anglais mettent longtemps à se retourner contre les leaders qu'ils élisent. Mmh. Ils ont été très indulgents avec lui au début de la crise du Covid, surtout quand lui-même a été malade. Ils ont eu beaucoup d'empathie pour lui. Mais maintenant, je crois qu'ils en ont assez. C'est un pays qui est à bout, particulièrement en raison de la façon dont ils subissent la crise du Covid. Et Boris Johnson devient de moins en moins populaire. Il y a un sondage qui a été publié ce week-end qui disait qu'une majorité de Britanniques souhaiterait qu'il démissionne.
Merci beaucoup Walid Berissoul, ne démissionnez pas. Merci beaucoup Florentin Collomb. Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, à voir ce soir sur France 5, c'est à 20h50. Et le documentaire sera suivi d'un débat présenté par Marina Carrère-Dancos, débat auquel vous participerez, Florentin Collomb. Merci d'avoir été avec nous tous les deux en direct dans ce studio. Dans un instant, nous serons avec le journaliste Pascal Perry pour son émission d'actualité économique sans clash ni buzz, mais qui marche, Périscope sur LCI. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Pascal Perry.
Bonjour.
Vous vous présentez Périscope, émission qui porte votre nom. Il y a 2 R à Périscope, comme sur Péri, c'est sur LCI, tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 17h. Il y a eu beaucoup de changements sur LCI, comme sur la plupart des chaînes d'infos. La saison passée, vous aviez 3 heures d'antenne par jour. Vous étiez également de 20h à 22h. Là, vous êtes recentré sur cette case horaire. C'est quoi, pour qui ne connaîtrait pas, l'angle de Périscope, est-ce que vous l'avez modifié ? Quelle nouveauté cette saison ?
Un peu, bien sûr, on infléchit toujours le modèle. L'idée de départ, c'est un rendez-vous économique autour de l'actualité économique, sociale, fiscale, alors transport, environnement, tout ce qui est l'économie à hauteur d'homme. En fait, c'est des invités, c'est du décryptage, il y a une vraie volonté de pédagogie. J'oserais ajouter qu'il y a une espèce de volonté d'enthousiasme, parce que l'économie, c'est peut-être pas la science la plus naturelle pour les Français, donc il faut souvent la décrypter, l'expliquer.
Déjà, pour vous, c'est une science ?
Oui, c'est une vraie science, c'est une science expérimentale. C'est pas nécessairement une science exacte, mais c'est un peu comme la médecine, d'ailleurs. C'est une science expérimentale.
C'est vrai, il peut y avoir plusieurs camps. Alors...
Oui, il peut y avoir plusieurs camps. Il y a d'ailleurs plusieurs camps. Et,
non, l'enjeu... je veux dire, par là que la science physique, tout le monde est d'accord sur la définition de l'énergie cinétique. C'est... Là, il peut y avoir des théories.
C'est non, il y a des sciences qui sont non contestables, si je veux dire. Celle-là, elle est contestée. En tout cas, elle est discutée aujourd'hui. Et un des enjeux de l'émission, c'est précisément de donner la parole à tous ceux qui ont une vision du monde, un rapport à l'économie un peu différent. Il y a souvent de la cohérence. L'idée, c'est aussi des controverses qui sont cordiales. Il y a le frottement des idées. On n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. C'est bien de s'expliquer. Et donc, c'est au fond une émission qui ramène l'économie là où elle devrait, à mon sens, rester, c'est-à-dire sur le terrain. Je donne la parole à des chefs d'entreprise, je donne la parole... Il n'y a pas très longtemps, regardez, j'ai donné la parole à un paysan, c'est un céréalier en Vendée, quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas de représentation, qui est venu nous raconter son métier. Que font les céréaliers l'hiver? Comment on produit? À quel prix on vend? Bon, il y a beaucoup de curiosité derrière tout ça. Et donc, l'ADN de l'émission, c'est encore et toujours la curiosité. Pour moi, ce n'est pas un vilain défaut, c'est au contraire une grande qualité pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit.
Puisque vous parlez de curiosité, l'enchaînement est tout trouvé avec les audiences, comment ça marche?
Écoutez, ça marche bien. C'était quand même un pari, et c'était un pari osé d'imposer une émission d'économie à 16h sur une chaîne généraliste. Les audiences ont beaucoup progressé.
Sur une chaîne d'info?
Une chaîne d'info.
Une chaîne généraliste.
Non, une chaîne d'info. D'info généraliste, pardon. Ouais. J'aurais dû ajouter cet élément.
Oui, parce qu'il y a des chaînes d'info spécifiquement business.
Il y en a qui sont en effet spécifiquement business. Celle-là s'adresse au grand public, LCI, sur le canal 26. C'était un pari. C'est un pari réussi, puisque les audiences montent. L'an dernier, nous sommes la deuxième chaîne info sur le 16-17. C'était un pari. C'est un pari gagné. Alors, on l'a gagné à plusieurs, évidemment. Ouais. On a fait avancer le modèle. Vous me demandiez s'il y avait des nouveautés. Oui, bien sûr qu'il y a des nouveautés.
Alors, l'an dernier, c'était la deuxième chaîne d'info, mais cette année, et toutes les chaînes d'info ont monté, LCI a monté également, mais s'est fait doubler, s'est fait piquer la deuxième place par CNews. LCI
pas sur le 16-17, mais de façon générale, oui, parce que on a une offre aujourd'hui sur CNews qui correspond à une demande très forte du marché, du public. C'est une
comment
une
vous offre, la qualifieriez cette
elle
demande
est très éditorialisée, elle est orientée. Moi, je suis pas là pour porter des jugements.
Elle est orientée comment?
Je ne porte pas de jugement sur les concurrents. Je suis un peu comme Jeff Bezos. Je ne suis pas obsédé par les concurrents, je suis obsédé par mes clients. Et j'essaye de leur donner
Jeff Bezos,
le maximum.
Le patron d'Amazon.
J'essaye de tenir ma promesse. L'offre de CNews, c'est une offre qui est orientée, qui correspond à un courant de pensée qui est très, très identifié.
Comment vous le qualifieriez, ce courant de pensée?
Il y a du patriotisme, il y a du nationalisme. C'est plutôt une chaîne qui a une offre de droite. Mais une fois encore, ça la regarde. Moi, je n'indexe pas ma proposition sur celle des autres. J'ai en particulier, moi, une identité propre que je maintiens.
Vous êtes un ancien professeur, vous êtes un ancien chef d'entreprise, ancien prof d'économie. Ça change quelque chose? Je le disais en préambule, comment est-ce qu'il faut être austère pour parler d'austérité?
Ah non, certainement pas. Je crois qu'il ne faut pas l'être. Moi, je veux être un diffuseur d'enthousiasme. Je pense d'abord qu'il y a un appétit de compréhension de l'économie dans le pays. Je pense que l'actualité qui s'annonce à nous dans les mois et les années qui viennent sera très orientée autour probablement du nouveau modèle économique dans lequel nous allons vivre. Ce n'est pas un nouveau monde, c'est un autre monde avec des fondamentaux qui vont peut-être glisser. Le centre de gravité de la politique, des politiques économiques et des politiques publiques va se déplacer. Mon rôle, c'est de l'expliquer. Moi, je vois toujours le verre d'eau à moitié plein. C'est pourquoi je vous parle d'enthousiasme. Je constate d'ailleurs dans les réactions que j'ai, alors je reçois du courrier, je regarde les réseaux sociaux, j'observe qu'il y a un véritable appétit de compréhension, de débat, d'échange, et c'est ce que je m'efforce de nourrir.
On a parlé du fond, on a parlé de la forme, on va parler du fond. Juste après ça, on marque une toute petite pause avec Pascal Perry, journaliste sur LCI, le président de Periscope. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec nous, Pascal Perry, qui présente Periscope. C'est une émission d'économie sur LCI. C'est tous les jours de 16h à 17h. Audience en hausse, vous l'avez dit. De toute façon, c'est le principe de la télévision. En général, quand les audiences sont en baisse, l'émission n'est pas reconduite à la rentrée. C'est cynique, mais c'est comme ça. À la base, vous n'êtes pas journaliste, mais également entrepreneur, prof d'économie. Et parfois, vous faites des petits cours ou des petits rappels. Par exemple, hier, votre invitée était la députée Aurore Laluc, économiste. Elle est également économiste également et députée européenne place publique. Et vous lui avez fait un petit rappel technique.
Là où j'aurais une question, vous dites emploi public. Mais attendez, Aurore Laluc, on a déjà 5,5 millions de fonctionnaires en France. On a une dépense publique qui est surabondante. Vous en voulez un peu plus?
Ouais, eh ben j'en veux un peu plus dans le domaine de l'hôpital. On a besoin, de toute façon factuellement, de fonctionnaires. Et en plus, si ça nous aide à passer la crise, eh ben c'est tant mieux. C'est d'une pierre deux coups, on investit pour l'avenir. Et en même temps, on fait en sorte que la demande ne s'effondre pas. Et ça, c'est essentiel.
Vous savez, quand on crée un emploi de fonctionnaire en France, c'est 50 ans d'activité, 20 ans de retraite, 10 ans de pension de réversion.
et bim, vous êtes libéral, vous ne nous en cachez pas, je vous le reproche pas, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir une conviction quand on fait du journalisme ?
Moi, je fais du journalisme, mais en même temps, j'annonce clairement que j'ai des convictions, c'est-à-dire que je ne prends personne en traître. Quand c'est une conviction personnelle, je le dis très clairement, je donne mon point de vue, je rappelle quels sont les fondamentaux de la science économique dans ce domaine.
Là,
je vous rappelle d'ailleurs,
là, en l'occurrence, par exemple, le coût du fonctionnaire.
Bah, écoutez, c'est factuel, oui, ouais. Vous embauchez en France un fonctionnaire, vous savez qu'on ne licencie pas les fonctionnaires en France, vous l'embauchez pour 40 ans, entre 40 et 50 ans de carrière, en général, statistiquement, c'est 20 ans de retraite, plus 10 ans de pension de reversion, parce que madame, en général, survit à monsieur. C'est la réalité. Donc, quand vous créez un emploi de fonctionnaire aujourd'hui, vous le créez pour 80 ans, et ça vous coûte en moyenne entre 4 et 5 millions d'euros. C'est nié par personne, mais je ne fais que le rappeler.
Oui, mais la manière que vous avez de me le montrer, c'est de dire qu'il y en a trop.
Alors, ça, c'est mon point de vue, mais Aurore Laluc, qui était là hier, qui est plutôt une femme de gauche, qui est même une femme de gauche, défend un autre point de vue. Et ma fierté, d'une certaine façon, c'est de lui laisser exprimer son point de vue, de le documenter, de le justifier jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans lui couper la parole. Il n'y a pas de foire d'empoigne dans Périscope.
C'est vrai, j'ai coupé cet extrait à cet endroit-là, mais je dois dire qu'ensuite, elle a tout loisir de s'exprimer et de répondre à votre argument. Vous avez cité Churchill, il ne faut jamais gâcher une crise, c'est une très belle phrase, et je me suis dit, mais qu'est-ce que veut dire cette phrase ?
Eh bien, ça veut dire qu'une crise, c'est tout à la fois un choc, c'est aussi une opportunité, c'est l'occasion de s'arrêter un moment, de réfléchir sur le modèle ancien, pour l'infléchir, pour l'améliorer, et donc si on laisse passer la crise sans tirer de conséquences, on l'a gâchée, c'est ce que voulait dire Churchill.
Voilà, d'où le verre à moitié vide, mais aussi à moitié plein. Et vous avez cité également Napoléon, vous aimez bien les citations, la défaite est une situation strictement temporaire. Ouais. On va parler d'un état temporaire, on va parler de LCI, d'abord de Darius Rochebain, c'est lui qui avait pris votre place à 20h à la rentrée sur LCI, c'est l'ancien présentateur vedette de la télé suisse, et il n'est plus à l'antenne sur LCI depuis début novembre, à la suite d'un scandale sexuel en Suisse. À quand son retour à l'antenne sur LCI, puisqu'il avait été annoncé que son retrait de l'antenne était provisoire?
Alors, vous savez que c'est pas moi qui décide ce genre de choses.
Je sais.
Vous dites scandale sexuel en Suisse, scandale dans la presse. Il n'y a pas de plainte. À ce jour, il n'y a pas de personne identifiée, il n'y a pas de victime identifiée. Ce que je vais vous répondre, c'est que je ne suis ni juge, ni censeur. Et donc, je ne vois aucune raison aujourd'hui, à titre personnel, je m'exprime à titre personnel, ce n'est pas le point de vue de la chaîne, la chaîne donnera son avis, je m'exprime à titre personnel, n'étant ni juge, ni censeur, je ne vois aucune raison d'éloigner Darius Rochebain de l'antenne. Faire un procès comme ça dans la presse, calomnier, c'est d'une certaine façon une espèce de fascisme juridique que je trouve, moi, inacceptable.
En même temps, il n'est plus à l'antenne, donc c'est aussi une manière de montrer que ces accusations ne sont pas infondées.
Non, c'est le temps de faire la clarté sur les choses, et c'est la justice qui fait la clarté, c'est la direction de la chaîne qui prend ses décisions. Je ne vous livre là que mon point de vue.
Vous êtes économiste, juste un mot là-dessus, Thierry Tullier, le patron de l'info du groupe TF1, a annoncé qu'il se prononcerait à la fin du mois, donc on ne va pas anticiper sa décision. Vous êtes économiste du sport aussi, vous avez même écrit des ouvrages sur le sujet, l'actualité, cet après-midi, il y aura une réunion entre l'UNFP, le syndicat des joueurs et les présidents de clubs pour évoquer la baisse des salaires des joueurs professionnels consécutive de la baisse des revenus des clubs à cause de la fermeture des stades et surtout à cause de la faillite de Mediapro. Que vous inspire le fiasco de Mediapro ?
Eh bien que quand on a une offre en face de soi qui est manifestement peu crédible, il faut mesurer deux éléments. Vous savez, en économie, on regarde deux courbes, la courbe du prix, la courbe du risque. Quand le prix est très favorable, mais que le risque est très élevé, on ne doit pas prendre la décision. Malheureusement, c'est ce qu'ont fait les dirigeants de la LFP. Ils ont cru dans une offre qui était une offre peu crédible. Le deuxième élément que j'apporte à votre question...
Très rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes.
C'est que le seul levier pilotable pour sauver le football aujourd'hui, c'est de baisser les salaires des joueurs. Levier pilotable immédiat.
Merci beaucoup Pascal Perry. Je rappelle Périscope de 16h à 17h, du lundi au vendredi sur LCI. Vous serez tout à l'heure à l'antenne. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres, il y aura Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chameroy pour l'écran de veille et puis notre invité, le comédien et cinéaste Maurice Barthélémy avec un livre témoignage totalement ahurissant. Ça s'appelle Fort comme un hypersensible. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.